Ils sont beaux, ces cantiques. Béni soit le Seigneur. Et bien maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le livre des Éphésiens, lorsque Paul s'adresse à ses frères qui avaient besoin d'une parole pour aller plus loin avec le Seigneur, pour entrer dans les œuvres que Dieu avait préparées à l'avance. Est-ce que déjà ça vous fait du bien de savoir qu'en ce qui concerne l'Église, mais en ce qui concerne chacun d'entre nous, Dieu a déjà tout préparé à l'avance? Je pense qu'une des déceptions terribles lorsqu'on va arriver au ciel, c'est de réaliser qu'on pourra être passé à côté d'œuvres bénies que Dieu avait préparées à l'avance. J'en suis convaincu qu'il y a des choses que l'on va réaliser, même si on a le pardon et que ça ne change rien à notre position d'enfant de Dieu, il se pourra, bien que beaucoup de frères et sœurs réalisent, et moi le premier, qu'on est passé à côté d'œuvres que Dieu avait préparées. Donc on va lire Éphésiens chapitre 2, verset 1 à verset 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois vraiment que Dieu savait qui serait là ce soir. Vous le croyez? Vous savez, j'ai entendu un témoignage qui m'a un jour bouleversé. C'est un pasteur qui a été invité à prêcher dans une réunion et il y avait les portes ouvertes et il y avait un mur de l'autre côté de la rue. Le pasteur, il est arrivé, le pasteur en place n'était pas là. Il avait été invité à prêcher, il n'y avait personne. Personne. Et lui, ce qu'il a fait, il a dit, mais ça ne fait rien. Moi, on m'a invité à prêcher. Il a pris son cœur et cantique. Il a chanté tout seul, des cantiques. Puis après, il a prêché, comme s'il y avait du monde. Il est reparti et il reçoit un courrier quelques semaines après du pasteur principal qui n'était pas là. Écoute, je tiens à te remercier parce que le jour où tu es venu, il y a une religieuse qui s'est convertie. Elle était de l'autre côté du mur, elle a tout écouté. Elle a donné son cœur au Seigneur, elle est venue me trouver pour me dire qu'elle aurait aimé assister à la réunion et qu'elle avait donné son cœur à Jésus-Christ, qu'elle s'était repentie de ses péchés, qu'elle avait tout abandonné pour servir le Seigneur, vraiment. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? C'est vrai ça, mais ce n'est pas merveilleux. Mais vous ne croyez pas que le Seigneur, il est bon? Quand on lit dans ce texte, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde », peut-être que cette femme, certainement, elle a dû prier les idoles toute sa vie. Mais peut-être que dans son cœur, peut-être et certainement dans son cœur, elle voulait connaître Dieu. Quand vous lisez l'histoire de Luther qui a été moine, vous connaissez l'histoire de Luther. Ça vaut la peine que vous lisiez un jour un livre sur le processus, la vie de Luther. C'était un moine qui était ancré au XVe siècle, je peux vous dire que ça craignait dur le catholicisme en Italie, parce que ça s'est passé en Italie. Mais mes frères et sœurs, Dieu sait que ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi, je veux rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Il a préparé quelque chose. Je passe à côté. Je sens que je passe à côté. Dans mon cœur, je ressens que même si ça ne change rien à ma position de chrétien, même si je meurs ce soir, je sais que je vais au ciel parce que le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié. Il n'empêche que Dieu m'a sauvé par grâce pour que j'entre dans des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et moi, je crois franchement, ce soir, que Dieu savait vraiment qui viendrait ce soir. Je ne sais pas s'il y a une religieuse de l'autre côté de la porte, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il savait que vous viendriez. Est-ce qu'il le savait, le Seigneur ? Eh oui. Et il vous aime. Il aimait cette brave religieuse qui, malgré son idolâtrie, cherchait Dieu de tout son cœur. Et il vous aime. Et il nous aime. Le texte nous dit, au verset, si vous avez toujours votre Bible ouverte, il est dit quand même que tout ça, ça s'est passé. Que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Cet amour dont il avait aimé les Éphésiens, c'est pareil pour les Toulousains. En 2014, Dieu nous aime du même grand amour et il ne veut pas que nous passions à côté. Il ne veut pas que nous éteignions l'esprit, que nous endormions l'esprit, que nous méprisions l'esprit. Ce que Dieu veut, c'est que nous réalisions qu'à cause de son grand amour, Dieu peut tout faire dans une vie. Dieu peut tout accomplir dans une vie. Le Seigneur peut changer le mal en bien. Le Seigneur peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il n'y a pas des choses qui peuvent concourir à notre bien ? Est-ce que Dieu peut utiliser nos ennemis ? Normalement, dimanche, vous aurez le témoignage de Ina, qui a vécu une expérience au travail, mais vraiment une drôle d'expérience, où les gens étaient contre elle, mais vraiment méchants contre elle, d'une méchanceté vraiment, vraiment hors norme. Et elle a dit, je mets ça entre tes mains. Un mardi soir, on a prié. Elle est venue à l'imposition des mains. Et quelques jours après, ou même le lendemain, Dieu a changé le cœur de sa directrice, de son chef de service. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu peut changer le cœur des gens ? Oui. Est-ce que c'est écrit que Dieu peut incliner le cœur d'un roi ? Regardez comment il a changé le cœur de Cyrus, cet ennemi d'Israël, pour en faire un instrument entre ses mains. Regardez comment il a changé le cœur de certains rois dans le livre de Daniel. Parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui rentre dans ses œuvres, qui met sa vie en Jésus-Christ, il se passe des choses hors normes. Et je crois vraiment, vraiment, si Dieu m'a mis ce texte à cœur ce soir, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui en a marre. L'expression n'est pas très jolie, mais qui en a assez de cette vie peut-être de désobéissance, d'échec, de haut et de bas, et d'avancer, et de reculer. Il y a des gens comme ça. Quand vous parlez avec eux, il y a quelqu'un qui me disait, moi je vis à l'église, je prends le pain et le vin, j'ai l'impression que de rechercher à retrouver la communion avec le Seigneur. Ça fait peine quoi. Ma vie, toute ma vie, je viens, je me dis, pardon Seigneur, pardon pour mes péchés. Il me dit, voilà, toute ma vie, j'essaye de retrouver la communion avec Dieu. Je ne pense pas que c'est ça. Béni soit Dieu pour la Sainte-Seine. Béni soit Dieu pour cette possibilité qu'on a chaque fois de retrouver la communion avec Dieu. C'est une bénédiction, oui ou non ? C'est quand même une grande bénédiction de pouvoir toujours retrouver la communion avec Dieu. Mais la vie avec Dieu, ce n'est pas ça. La vie avec Dieu, je crois que c'est une vie de victoire. Je crois que c'est une vie de victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je crois que la vie avec Dieu peut être une vie d'obéissance, de grâce, d'expérience, d'œuvre préparée à l'avant. En plus, Dieu dit qu'il les a préparés à l'avance. Ça vous touche pas, vous ? Quand vous arrivez au travail, que tout a été préparé à l'avance, c'est pas bien quand les choses ont été préparées. Moi, je vois des fois, Mme Bourdel, elle me prépare tout. Comment c'est que j'avais été malade, tout ça ? Elle me prépare tout pour le conseil d'administration, clac, clac. J'ai rien à faire, rien, juste à signer. C'est bien quand les gens ont préparé à l'avance le travail. Non, c'est pas bien. Mais les hommes sont capables de le faire parce qu'ils nous apprécient. Mais notre Dieu, est-ce que vous savez que Dieu a préparé quelque chose à l'avance. Dieu a formé des projets. Lisez avec moi dans Jérémie. Dans le prophète Jérémie, ils sont fatigués, ils sont inquiets, comme ça nous arrive. Vous les comprenez ? Vous les comprenez, les gens ? Non, dans la Bible ? Regardez dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29, ils sont en déportation, bien sûr qu'ils sont esclaves. On voit souvent le peuple d'Israël en captivité, etc. Et Dieu va leur rappeler quelque chose. Jérémie chapitre 29, au verset 10. Des fois, il y a le temps. On parlait avec Mme Clermont tout à l'heure, des fois, il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour comprendre quelque chose. Mais moi, dans tous les livres que j'ai lus d'hommes de Dieu, presque tous disent la même chose. Il faut 5 ans, 10 ans, 20 ans pour comprendre certaines choses. Heureusement que Dieu y sait à l'avance tout ça. Jérémie chapitre 29, verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. » Ils partiront parce qu'ils étaient en exil. « Vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et il y a quelqu'un qui a fait ça. Qui c'est qui l'a fait? Qui a lu cette prophétie? Est-ce que quelqu'un pourrait me citer? Qui c'est celui qui a... Oui, c'est Daniel. On le lit? Un petit peu plus loin, c'est bien, c'est bien. Daniel, regardez. Alors, c'est au chapitre... Alors que je ne me trompe pas. C'est Daniel chapitre 9. Daniel, il a fait ce qu'on vient de faire, il vient de lire le prophète Jérémie. Je ne sais pas si vous aimez lire la Bible, mais il avait soif de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, j'ai soif, océan de paix, etc. Et il lit, Daniel chapitre 9. « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors il a pris son calendrier et il a compté. Et il s'est rendu compte que c'était l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. » Et vous lirez la suite et vous verrez comment Dieu l'a béni. Il avait compris que cette promesse était pour lui. Mais dites-moi, de la même manière que Daniel avait compris par les livres qu'une promesse pouvait se réaliser parce que ça correspondait, dites-moi, nous, mes frères et sœurs, est-ce que quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit la parole, est-ce que nous ne croyons pas qu'il y a des promesses que nous pouvons nous aussi nous approprier par rapport à la vie, rien qu'à la vie de l'esprit? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a plein de promesses que l'on peut s'approprier et qu'on peut persévérer en priant, en cherchant le Seigneur de tout son cœur, comme Daniel, et dire « Mais cette promesse, elle est pour moi. » Est-ce qu'elle est pour tous, la promesse, par exemple, du baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle est pour une élite? Est-ce qu'elle est pour les serviteurs, pour les pasteurs, pour, soi-disant, s'il y en avait quelques-uns qui étaient meilleurs que les autres? Ou est-ce qu'elle est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera? Elle est pour tous. Et nous aussi, nous pourrions dire « Mais cette promesse, elle est pour moi. Cette bénédiction, elle est pour moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Elle est pour qui cette promesse? Si quelqu'un, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus universel. Il n'y a rien de plus universel. C'est pour tout le monde, si quelqu'un a soif. N'importe qui peut s'approprier cette promesse. N'importe qui. Quand il est dit « si quelqu'un », tout le monde sur la terre peut s'approprier cette promesse. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous, moi je peux venir, moi qui fais que qui est que des hauts, que des bas, moi dont j'ai parlé tout à l'heure, vous savez, le monsieur là, qui dit ça fait des années qu'il vient, il passe sa vie à se réconcilier avec Dieu, est-ce qu'il pourrait dire « Mais moi aussi ?» Eh bien oui, lui aussi, il pourrait. Ce gars qui a passé 20 ans à prendre la Sainte-Seine pour essayer de se réconcilier avec Dieu, eh bien, venez à moi, vous tous. Quelle bénédiction! Et Daniel l'a fait. Et Dieu l'a béni. Vous m'invoquerez. Moi, je vous dis, les projets que j'ai pour vous, oui, on est dans le temps de la grâce, on est dans le temps, dans les prémices de la colère. On l'a lu dans Éphésiens. À cause de la colère, on parle de grâce, de colère, de mort et de vie, de miséricorde. Tout ça, ça paraît un peu mélangé, mais c'est très clair. Il y a d'un côté la miséricorde, le grand amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, les projets de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et de l'autre côté, il y aura la colère pour les gens qui ne veulent pas de la grâce de Dieu. La colère, elle va venir, elle vient, elle se prépare. Mais de l'autre côté, il y a des projets de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Vous vous rendez compte? Oui, tout le monde peut dire oui, la colère de Dieu, elle vient. On sait que la colère de Dieu va venir et que ça va être extrêmement sévère, que ça va être extrêmement grave, tout ce qui va se passer après la grâce. Mais voilà, juillet 2014, on n'a pas fini, mais enfin, juillet 2014, la grâce, elle est là. Je connais les projets. Et si nous avons la même attitude que Daniel, en disant, mais c'est pour moi, c'est pour la grâce, C'est pas les 70 ans de captivité. C'est pour la dispensation de la grâce. Jusqu'à ce que Jésus ou soit revienne me chercher, ou soit enlève l'Église, il y a des projets qui sont pour moi. Il y a des œuvres qui sont pour moi. Alors, dans l'Église, est-ce que nous voudrions vivre ces œuvres ou individuellement? Tiens donc individuellement. Est-ce que vous aimeriez entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour vous? Est-ce que vous aimeriez continuer à avancer dans des œuvres que Dieu a préparées pour vous? Vous savez, Dieu peut nous étonner. Tout à l'heure, je priais, vous savez qu'on a signé le sous-saint privé, bon, ça fait un peu de vague dans l'Église, pas le sous-saint privé, mais le fait qu'on puisse un jour devoir changer, etc., bon, c'est pas grave ça. Ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, c'est très bien, c'est pareil. Et je priais ce matin, Seigneur, tu vois, si c'est ta volonté, conduis, dirige, prépare. Est-ce que vous croyez que Dieu, il sait tout? Est-ce que vous croyez que Dieu est tout puissant? Mais qu'est-ce que c'est ces cantiques-là? Quand tu pries au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Mais vous croyez que c'est vrai? Vous croyez la prophétie justement d'Ésaïe qui a dit, mais quand il sera venu, pas le Consolateur, mais Jésus, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, conseiller. Vous le croyez? Dieu puissant. Le Seigneur Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Avant de remonter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je crois que si on prenait au sérieux ce petit texte qu'on a lu dans Éphésiens, oui, on était mort, et si on ne veille pas, on peut vite, vite décrocher. Mais mes frères et sœurs, si on croit dans le grand amour de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, on peut tout à nouveau se retrouver dans cette position de victoire, parce que ça va loin cette affaire, quand il dit, mais vous êtes ressuscité avec lui, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, bien sûr que ça demande une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie de consécration, ça demande une vie de renoncement, ça demande quand même une vie de sainteté. Comment être dans la volonté de Dieu si on ne se sanctifie pas? Vous connaissez le Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et puis on peut dire, et que ta volonté soit faite. Il est hors de question que la volonté de Dieu soit faite, si nous ne nous sanctifions pas, si Dieu ne règne pas, et on peut chanter en boucle, règne en moi, règne en moi, vous savez, on a ce petit cœur, règne en moi, on peut le chanter pendant 36 heures de suite, obéissons, et je peux vous dire que Dieu règnera. Il n'y aura même pas besoin de le chanter. Obéissons, 24 heures sur 24, et croyez-moi, Dieu règnera dans notre vie. Et dans notre vie, ces œuvres, moi, j'y crois vraiment. Et ce soir, quelqu'un est venu, je ne sais pas, mais avec cette ferme décision de dire, il faut qu'il se passe quelque chose. Et hier, c'est hier que je lisais dans Daniel, justement, quand il est dit, Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les vins et le mets du roi. Vous vous rappelez ces offrandes qui étaient apportées cette nourriture qui était présentée à des idoles. Et lui, il a dit, non, je ne veux pas me souiller. Et qu'est-ce qu'il est dit de suite après? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il est dit de suite après que Daniel est résolu de ne pas se souiller? Allez, ceux qui connaissent la Bible. Alors, on va le lire. Allez, lisons-le parce que ça vaut la peine. Vous savez, quand on prend des résolutions, c'est impressionnant comment Dieu peut agir de suite. Regardez avec moi. Daniel, c'est après Ézéchiel. Daniel, chapitre 1, verset 8. Il prend une résolution. Ce que l'on partage ce soir dépendra inévitablement d'une résolution. Daniel a pris une résolution. Il ne voulait pas se souiller. Vous croyez que le monde nous propose des choses qui peuvent nous souiller? Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques à ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Et c'est un principe biblique, dès qu'il y a une résolution, d'ailleurs c'est Job qui le dit, à tes résolutions répondra le succès. Daniel, il aurait pu, il était en captivité lui aussi, il aurait pu dire, bon, mais c'est comme ça, c'est la vie, tout le monde, de toute façon, il faut bien manger, voilà, c'est offert des idoles, mais moi, Dieu purifie le repas. Est-ce que le repas aurait été purifié? Si de tout son cœur il avait demandé, oui, moi je le pense. Je le pense vraiment, que Dieu purifie la nourriture quand on lui demande. Mais lui voulait aller au-delà de ce que les autres pouvaient dire. Il avait dans son cœur un désir, il était déterminé. Et il a résolu, le résultat ne s'est pas fait attendre, Dieu lui a fait trouver grâce. Parce que vous savez, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Des fois, on dit, oui, celui-là, il m'empêche de, celle-là, à cause d'elle, je n'ai pas eu la promotion. Écoutez-moi, si on prend des résolutions pour obéir à Dieu, de ne pas se souiller, Dieu nous fera trouver grâce. Allez, on le dit tout à l'heure avec Olivier, avant que vous arriviez, on partageait ce texte, on peut le lire, on partageait un verset qui m'a fortifié. Dans le psaume 80, il y a cette délicatesse du Seigneur. Parce que vous savez, nous, on peut faire attendre le Seigneur. Je vous parlais de ce chrétien qui, depuis 20 ans, essaie de retrouver la communion avec Dieu le dimanche matin à la Sainte-Seine. Mais regardez cette expression qui revient plusieurs fois dans la Bible, psaume 81, versets 14 et 15. Le début du verset 15. Regardez bien, il faut quand même le lire. « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Première condition. Deuxième, « si Israël marchait dans mes voies !» Ça veut dire les deux vers l'ensemble, si on obéissait. Regardez la réaction de Dieu. 6 ans après, comment c'est écrit donc ? 3 mois après ? Non. En un instant. Est-ce que ça ne vous touche pas ? Moi, je vous assure, moi, ça me bouleverse. Dès qu'il y a obéissance, dès qu'il y a le souci, non pas d'écouter la parole, parce qu'il est dit, si mon peuple écoutait, si mon peuple marchait, ça veut dire, il va y avoir l'expérience de ce que l'on a appris. Je vais concrétiser ce que j'ai compris. Si Israël m'écoute, si Israël marche dans mes mots, en un instant. Mais il n'y a que Dieu pour faire ça. Et c'est pas la première fois. Si vous lisez dans Ésaïe, il dit, si vous préparez le chemin du Seigneur, au même instant, la gloire du Seigneur vous apparaîtra. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous rappelle ce soir que quoi que ce soit qui peut se passer, il y a des œuvres qui ont été préparées à l'avance. Tout est prêt. Les ruisseaux de Dieu sont pleins. Vous le croyez ça? Tout est prêt. C'est même pas la peine d'en discuter. Tout est prêt. Les œuvres sont prêtes. Les projets de Dieu, ils sont bons. La colère de Dieu, c'est autre chose. C'est une chose vraie qui arrive. Mais la grâce de Dieu, c'est une réalité. L'amour de Dieu, c'est une réalité. Parce que c'est vrai, on peut dire, oui, ce qui se passe, c'est vrai, c'est grave. Est-ce que c'est grave tout ce qui se passe dans la société? Mais bien sûr que c'est grave. C'est vraiment grave. Mais la grâce, est-ce que c'est la réalité? La miséricorde, est-ce que ce n'est pas une réalité? L'amour de Dieu, est-ce que ce n'est pas une réalité? Les projets de Dieu, est-ce que ce n'est pas une réalité? Alors, prenons la décision, comme Daniel, de nous déterminer à dire, moi, je ne vais pas me souiller. Ça souille. Les gens vous disent, mais non, on ne te prend pas la tête. Mais écoutez, mais en tous les cas, ces gens-là, ils font rien pour Dieu. Et ils ne seront pas utilisés par Dieu. Moi, je voudrais que dans l'Église, Dieu puisse trouver des hommes, des femmes, même toute l'Assemblée, avec laquelle Dieu pourra nous amener à entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Que son nom soit béni. Il y a des œuvres, mes frères et sœurs. Elles sont prêtes. Il y a des projets. Ils sont bons. Les projets de Dieu sont bons. C'est Paul qui dit, mais si vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, sain, raisonnable, acceptable, si vous ne vous conformez pas au siècle présent, vous discernerez la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Est-ce que vous croyez que les choses de Dieu sont bonnes? Elles sont bonnes jusqu'à la fin? Ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il n'est pas impressionné sur son trône, même si le monde se déchaîne, même si les fondements sont ébranlés. Moi, j'aime le psaume 2 quand il est dit, celui qui siège dans les cieux, qu'est-ce qui est écrit après? Rit. Bon, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai cru que j'avais mal lu. Et j'ai lu dans une autre version. J'ai dit, tiens, peut-être c'est un truc qui ne va pas. Celui qui siège dans les cieux rit. Ça ne veut pas dire que Dieu rit. Mais ça veut dire que Dieu n'est impressionné par rien, que rien ne l'impressionne. Par contre, il cherche quelqu'un, il cherche une église. Et que Dieu fasse que ce soir, il ait pu trouver quelqu'un comme Daniel qui puisse dire, moi j'ai compris, je t'avais demandé de me parler, on n'est pas nombreux, c'est vrai, mais quelle importance? Ce qui est important, c'est que Dieu ait quelque chose à te dire, mon frère. Dieu ait quelque chose à te dire, ma sœur, et que nous puissions dire, voilà, moi aussi, je veux trouver grâce, non pas pour en mettre plein la vie aux autres, parce que ça ne marchera pas, mais je veux trouver grâce pour être une bénédiction pour les autres. Alléluia. On va fermer les yeux quelques instants. On va fermer les yeux, et c'est très sérieusement que l'on peut demander à Dieu, mais Seigneur, je t'avais demandé de me parler. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Moi, franchement, ça ne me gêne pas. Moi, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit puisse agir dans l'Église, hein. Que le Saint-Esprit puisse agir dans votre cœur. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous ressemblez à ce pauvre frère, à ce brave frère, qui depuis 20 ans, il vient le dimanche pour retrouver la communion. Ça, c'est pathétique quelque part. Mais moi, je sais que Dieu va l'aider. Je le crois que Dieu peut l'aider. Qu'il veut l'aider à cause de sa grande miséricorde, à cause de son grand amour. Le seul problème, c'est nous qui passons à côté. Mais il y a peut-être quelqu'un ce soir qui dit, bon, ça suffit. Je ne vais pas rentrer et regarder la télé et me mettre sur Facebook et à laisser les choses de la terre m'envahir. Non, je voudrais connaître la communion avec Dieu. Prions le Seigneur quelques instants. Notre Père,